Moi, je suis un agriculteur, ça fait 25 ans. Ça fait 30 ans quand même. 30 ans, je suis agriculteur, donc je me plains pas, je suis passionné. Il n'y a pas de honte. Parce que les deux corps de métier qui sont vitaux ici à Martinique, c'est l'agriculteur et le pêcheur.
Mais les pêcheurs, il y en a quasiment plus. Mmh. C'est ça le problème.
Et c'est pour ça que je réfléchis le côté pisciculture pour permettre un peu de poisson frais. Parce que sinon, c'est des. On mange quoi du congelé.
Les principaux agents toxiques, on en retrouve beaucoup, comme dans beaucoup de territoires. Ce qu'il faut mentionner, c'est que les agents toxiques auxquels on va être exposé en Martinique ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver, par exemple, à Lyon, à Paris ou dans tout autre pays du monde. On a ce qu'on appelle des expositions différentes, donc des exposomes différents. Et d'ailleurs, si on est en Martinique, les exposomes au nord de l'île ne vont pas être les mêmes que ceux au sud de l'île. Donc, dans l'exposome, il y a effectivement la composante chimique, c'est celle qui m'intéresse. Et en Martinique, c'est une terre qui est connue pour utiliser beaucoup de pesticides. Historiquement, le pesticide le plus connu, c'est la chlordécone, mais il y en a eu d'autres qui ont été utilisés avant elle et après elle, après son interdiction. Et donc, parmi ces pesticides, on trouve actuellement, par exemple, le glyphosate, qui est un pesticide herbicide qui est très médiatisé du fait de sa très grande utilisation. Donc, en fonction des types d'agriculture, il y a un très grand nombre de pesticides qui peuvent être utilisés, mais il y a évidemment aussi une pollution qui résulte du trafic automobile, il y a une pollution qui résulte de l'utilisation d'aliments bien particuliers qui peuvent contenir, par exemple, des additifs alimentaires, des conservateurs. Et donc, l'exposome martiniquais va être constitué d'une variété de toxiques qui résultent d'activités agricoles, les pesticides, ou d'activités plus industrielles ou, on va dire, plus en lien avec les activités de tous les jours, comme le trafic automobile. Donc c'est un exposome qui est varié. Alors il y a quand même des spécificités, puisque la chlordécone a été utilisée aux Antilles et n'a pas été utilisée dans l'Hexagone, ce qui fait que là, il y a une vraie spécificité sur cet agent-là. Et c'est pour ça que, aussi, j'allais au campus, c'était pour discuter de ces problématiques de pesticides, dont en partie la chlordécone, qui est un polluant organique persistant, donc qui est toujours présent malgré son interdiction au niveau de l'exposome martiniquais et guadeloupéen d'ailleurs.
Je vais vous montrer. Oui. Et puis après, donc, vous pouvez boire pour quoi, parce que j'ai mis tout ça là, c'est pour boire. Je vais vous montrer, là on plante de des dachines sur des terres en banane.
Ah oui.
En grande quantité.
Et ça se vend
sans problème. Ça va dans les coins. Ça passe avec un certificat.
C'est incroyable. Hein?
Donc c'est bien beau de faire donc le débat au niveau de l'amphithéâtre. Mais dans la réalité.
Mais c'est ça, complètement, oui, c'est pour ça qu'on vient ici.
Oui, mais ça m'interpelle là, vraiment. Moi je veux voir ça.
Mais c'est
des dachines sur des terres contaminées.
C'est ça.
Est-ce que...
La question du foncier, pardon. Ouais. Parce que tu m'avais dit que tu étais entouré par des terres qui ont utilisé de la chlordécone.
Ouais, donc on a toutes ces parties là à l'époque. Quand vous montez là, vous avez vu qu'il y a une parcelle de bananes loin.
Oui, oui.
Et bien donc. J'avais vu beaucoup de pesticides, on a aussi donc...
On ne les a pas vus.
Non, donc, quand vous montez...
Les bananes. Les bananes, oh, voilà.
Okay. C'est des pesticides sur pâte.
C'est ça, exactement.
Alors, le pesticide en question, c'est un insecticide. C'est-à-dire que c'est une molécule qui est utilisée pour tuer des insectes. Il a été utilisé en Martinique dans les années 70, 80, jusque dans les années 90. Et il a été utilisé dans d'autres pays du monde. En Europe, on l'oublie parfois, mais il a été utilisé en Allemagne. Il a été commercialisé aux États-Unis également. Il a fait l'objet d'une interdiction relativement rapide. Et ce pesticide, il a été très utilisé en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, qui est un insecte, qui est un ravageur du bananier. Donc son utilisation était assez simple. C'était un épandage au niveau des plantations de bananes, pas sur les bananiers en soi, mais sur le sol, près des racines, pour éviter que l'insecte ne ravage les bananiers. C'est donc un pesticide qui est organochloré. Donc ça, c'est important de le dire, parce que le mot chlore dans organochloré signifie que ce pesticide contient des atomes de chlore, et les organismes vivants ont beaucoup de difficultés à gérer les composés qui sont chlorés ou des composés qui sont bromés ou des composés qui sont fluorés. On parle beaucoup des PFAS actuellement. Dès qu'on a du chlore, du brome ou du fluor, c'est des atomes d'halogène, et ben les molécules chimiques qui en contiennent sont difficiles à gérer pour un organisme comme le mien ou n'importe quel autre être humain. Ça veut dire quoi, mal gérer? Ça veut dire que ce pesticide, lorsqu'il est ingéré, on a beaucoup de mal à l'éliminer, parce qu'on ne le reconnaît pas. Ou plutôt, on le reconnaît, mais on le transforme mal. Et il est très hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire qu'il a peur de l'eau. Donc en fait, si on reprend la racine, ça signifie que c'est une molécule qui va avoir tendance à s'accumuler plutôt dans les parties grasses de l'organisme. Donc à titre d'exemple, pour être un peu plus quantitatif, c'est un pesticide qui va avoir chez l'être humain, homme ou femme, une durée de vie, une demi-vie, pardon, qui est de l'ordre de 130 jours. Ça signifie que si on en ingère 1 gramme aujourd'hui, dans 130 jours, on en entourera toujours 0,5 gramme. Ça veut donc dire qu'une personne qui en absorbe tous les jours finit par en accumuler. Et donc une solution aussi pour s'en débarrasser, c'est de ne plus être exposé. Or l'exposition principale, c'est une exposition qui est alimentaire, soit par l'eau, soit par la consommation de produits. Alors contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les bananes qui nous contaminent, parce que le pesticide a beaucoup de mal à atteindre les bananes qui sont très en hauteur dans les bananiers, et comme il est hydrophobe, il aime pas l'eau, il a du mal à remonter par la sève. Par contre, tout ce qui va être cultivé dans le sol, les patates douces, les pommes de terre, les ignames, ça peut être très contaminé, notamment en surface.
Donc, comme il manque des terres.
Ouais.
Ce qu'on a, on va avec. Est-ce que nous allons de l'autre côté? L'autre côté, c'est de l'argent. Hein.
Mais excuse-moi, Alexandre, j'ai pas compris le problème en fait qu'il soit là, que les dachons soient là.
Il y avait des bananes avant.
Eh bien, juste des bananes à côté, il y avait des bananes avant.
Il y avait des bananes avant.
Et donc, ces dachines, elles sont à qui, ces dachines?
Ah ben, c'est à des locataires qui travaillent avec une coopérative en Anas Martinique, qui travaillent avec Maya au Lamantin, qui travaillent avec une autre coopérative sous Bois-Rouge. Donc, tous ces producteurs-là donc, vivent dans ces coopératives qui, entre eux, livre dans les cantines,
petit. Ils empoisonnent les enfants.
Depuis à la naissance, tu as déjà, tu as déjà l'épée de Damoclès.
Pour que je comprenne bien, donc du coup ils font pousser les dachènes là sur un terrain très riche en chlordécone. Le dachène se charge en chlordécone.
Et en le dachène, ça pousse dans la terre.
Ouais, mais ça d'accord, mais ils le revendent à qui? C'est ça que j'ai pas compris.
Des coopératives.
Les coopératives et du coup.
Les voilà, coopératives. Voilà. Comme ils répondent à des appels
d'offres. Un peu comme des AMAP, mais direct.
À la cantine de Fort-de-France, cuisine centrale, donc c'est des bons mots.
Ouais, mais AMAP, c'est censé être aussi bio, quoi. Enfin, je veux dire, tandis que là, est-ce que c'est étiqueté bio ou c'est présenté comment?
Ah non,
c'est ça. Okay.
C'est une revente.
Oui, voilà. Mais là, en principe. Cette vente, non, elle est interdite, parce qu'on ne peut pas vendre des produits contaminés.
Ben oui, voilà.
Mais il y a une interdiction même à produire, là.
Oui, d'ailleurs, produire.
Il ne devrait pas produire, mais normalement,
le
problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle.
Normalement, on ne peut pas produire ça. Il pourrait produire autre chose.
C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas assez de contrôle. C'est ça. Ouais.
Mais si vous n'êtes pas monté ici, vous ne serez jamais au courant.
Oui, ce qui est très ennuyeux, parce que nous, au CPSN, qu'est-ce qu'on dit qu'il faut acheter autant que possible dans les supermarchés et non pas au bord des routes, parce que c'est censé être contrôlé.
Voilà. Dans les supermarchés, oui.
Alors que les AMAP, ça peut marcher, parce que justement, là, c'est un circuit qui est contrôlé.
Oui, c'est ça.
Même dans les supermarchés, ça passe dans les coopératives. Les coopératives, ils n'ont pas tout le temps de contrôle. Hein. Les coopératives, le dimanche, il faut faire des livraisons pour que le lundi matin, quand tu... Donc, le supermarché, chez Leclerc, chez Cacao, le rayonnage est bien rempli, on mange des produits frais.
Il y a un vrai problème de contrôle.
Un vrai problème de contrôle et puis aussi d'éducation, parce que le Martiniquais, il préfère aller dans les GMS, chez Leclerc, chez Carrefour, dans les GMS, que d'aller chez le petit producteur. Alors que moi, je sais, je fais le bon produit, j'avais 20 ans, je suis en bio. Donc il y a une pression au niveau du foncier pour avoir une bonne qualité de production. Une politique d'autosuffisance qu'on parlait. Donc il faut manger plus de produits locaux, mais manger plus de produits locaux, mais sous quelle barcelle? Il y a aussi la problématique des aides les gens qui font les bons produits ne sont pas récompensés.
C'est clair, c'est clair. Le poséine n'est absolument pas adapté à ce type de culture.
Mais et nous producteurs bio, on trime là parce que
oui.
Moi, si je faisais du tonnage, moi je ne souffre pas de problème. Hein. Mais je mets des pesticides.
Oui, c'est sûr.
Mais moi, je ne mets pas des pesticides. Mais j'ai beaucoup de problèmes.
La grande difficulté des agriculteurs et des agricultrices en agriculture biologique, hein, c'est le fait de commencer à travailler sur une terre qui est non contaminée. Sur un produit comme la chlordécone qui est persistant, bah, il est évident qu'on ne peut jamais dire qu'on est en bio, entre guillemets. Donc il faut aller travailler sur des terres déjà qui contiendraient des pesticides qui peuvent se dégrader rapidement, facilement. Et ensuite, évidemment, le soutien des autorités vis-à-vis de ce type d'agriculture, qui est perçue comme étant une agriculture plus chère, parce que, alors curieusement, on utilise moins de produits, moins de pesticides, mais elle est plus chère, parce qu'on considère que les rendements vont être moins importants, ou que, bah, il y aura des insectes ravageurs, ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'insectes nuisibles, il y a des insectes ravageurs, mais voilà, ils ont le droit de se nourrir aussi, quoi, quelque part. Bah voilà, pour les agriculteurs, il y a beaucoup de contraintes. Quelqu'un qui veut commencer à se mettre au bio, bah parfois, même sur d'autres territoires, il doit attendre 3-4 ans avant d'avoir l'autorisation, parce que la terre, avant, elle était peut-être contaminée par des pesticides. Et ensuite, on n'est jamais à risque que, par des transferts, pour la chlordécone, il y ait finalement, par le fait d'un ruissellement, une contamination du sol à la chlordécone. Ça impose un suivi et ça impose une beaucoup de méthodes qui font que c'est difficile pour eux.
Juste une question. Je voulais savoir les contrôles.
Les contrôles. Déjà au niveau de contrôle, on n'a pas ce contrôle.
Ici à la Martinique. De contrôleur.
Ouais, mais pour toute la Martinique, tu as peut-être 4 à 5 contrôleurs.
Et contrôleurs de quoi?
De la DAF.
La DAF qui vont sur les parcelles pour voir vraiment ce qu'on voit vraiment.
Donc il n'y a pas de vraie traçabilité, quoi.
Dans l'Hexagone, normalement, les agriculteurs doivent remplir des registres s'ils utilisent des pesticides. Il n'y a pas de fonctionnaire pour relever les registres, donc ils ne le font pas. C'est pareil.
Donc c'est tout ce problème-là. Donc, éduquer, responsabilité, communiquer.
Ouais.
Et puis, comme je dis, responsabilité, c'est au niveau de ceux qui détiennent les décisions. C'est ça le problème ici à la Martinique.
La question de la traçabilité, elle se pose pour tous les types de pesticides. Et si d'ailleurs on devait faire un très court écart sur le sujet de la chlordécone pour parler des autres pesticides, on sait très mal comment un sol et les micro-organismes qui le composent réagissent à la présence d'un pesticide. Parce qu'on, comme nous, les micro-organismes du sol vont avoir une tendance à transformer les molécules pour les éliminer, mais du coup, en les transformant et en les éliminant, elles produisent des molécules nouvelles. C'est ce qu'on appelle des métabolites. Le métabolisme, c'est la propriété qu'a le corps de transformer des molécules auxquelles il est exposé. On est exposé à du tabac, on transforme les molécules du tabac et on les élimine dans nos urines et nos fesses. On doit d'abord les reconnaître et après on les transforme. Pour ce qui est des pesticides, c'est pareil. Pour la chlordécone, durée de vie très longue, je l'ai dit, dans les organismes humains, mais durée de vie beaucoup plus longue dans les sols. On est sur une molécule qui est suspectée d'avoir une demi-vie dans les sols entre 50 et 200 ans. Ça signifie 50 ou 200 ans qu'on parle de 6 ou 7 générations de personnes potentiellement exposées si elles ne suivent pas les recommandations pour diminuer leur exposition. Et donc, cette molécule, elle est facilement dosable actuellement. Elle est dosée d'ailleurs dans le sang et en Guadeloupe et en Martinique, on a la possibilité de se faire doser gratuitement pour savoir à quel niveau de chlordécone est mis. Comme la glycémie, on mesure le sucre dans le sang, la chlordéconémie, on mesure la concentration de chlordécone dans le sang. Donc ça, on peut le faire. Donc on a les outils pour mesurer les niveaux de chlordécone dans les sols, dans les eaux, dans le sang humain, etc. Mais il est vrai que ce suivi, il a été organisé relativement tard, et avec une molécule qui a une durée de vie qui est très très longue. Donc ce qui pose un vrai problème, c'est la problématique de la transférabilité de cette molécule. Quand on l'épand sur des bananes, et uniquement sur des bananes, on ne peut pas se dire que la molécule va rester au niveau des champs de bananiers. En fait, on s'est rendu compte que l'île a été grandement contaminée. Alors, il y a des régions qui sont plus contaminées que d'autres, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Et surtout, la molécule ne contamine pas que les sols, elle contamine aussi les eaux. Donc, ce qui est dans l'eau, notamment des organismes vivants, dont des poissons, et c'est pour ça qu'il y a une très forte réglementation de la pêche aux Antilles, du fait de la contamination, on va dire, proche, proximale, par la chlordécone.
L'ananas que vous mangez, c'est rempli de pesticides. Hein.
Ah bah oui.
C'est un peu de pesticides, vous avez, c'est, ça sent bon, mais c'est un peu de pesticides.
Quand ça sent bon.
Alors, quels pesticides? Parce que c'est ceux, là, on parle de ceux qui sont produits ici, les ananas ici.
On a donc des pesticides, par exemple, l'étrelle pour mûrir. Donc, on a aussi des pesticides pour assurer, donc, pour éviter donc, l'enherbement des parcelles.
Ouais.
Et c'est, il faut le faire régulièrement tous les 15 tous les 1 mois 15 jours. On a le glyphosate, tout ça. Donc tous les 1 mois 15 jours, il faut traiter aussi avec du
herbicide. Il y a des insecticides aussi qui sont utilisés.
Oui, on a en même temps dans le même bain tout ça, ces pesticides, tout ça. Donc ils font un seul mix-check et puis ils envoient ça.
Ah, milkshake, ça j'aime bien l'expression.
Ça donne le cocktail.
Un cocktail, et puis après, et tu vois, donc c'est, on a des. De très beaux ananas, les gens sont contents, c'est des fruits locaux, mais c'est bien bon, mais c'est pas tout le temps, il faut manger.
Mais on en importe pas mal aussi pour les ananas.
Oui, Costa Rica. Costa Rica
dans les mêmes conditions de production.
Hein. La Martinique a raté son coche. Pourquoi? Parce qu'on tourne dans les 5 années à venir, on sera comme Saint-Martin. Saint-Martin, c'est 99%, 80%. C'est des produits importés.
Oh, c'est un désert en plus. C'est vrai.
Donc, ici, nous allons petit à petit entrer dans cette logique-là. Toutes ces terres qui sont restées en banane vont être en canne.
D'accord.
C'est beaucoup plus rémunératrice. Et ça paye bien. Et le rhum, tout le monde en boit. Les Chinois en dégolent.
Ah, oui.
Et on aura très peu. Très peu que c'est des derniers mots quand c'est des gens comme moi qui vont rester. À garder donc une alimentation locale, mais pas en même temps.
De manière générale, alors j'ai pas la réponse de manière spécifique, mais on sait que dans les jardins, pour lutter contre des insectes ou des ravageurs qui seraient trop nombreux, réintroduire de la biodiversité et les prédateurs, c'est quelque chose qui fonctionne. On sait que pour lutter contre des chenilles dans les jardins, les mésanges, les poules font un gros boulot. Donc réintroduire de la diversité dans les jardins, c'est une bonne manière de lutter contre l'hégémonie d'une espèce qui serait effectivement ravageuse parce qu'elle est trop nombreuse. Et si par contre on maintient cette espèce mais à un tout petit niveau et qu'elle permet de nourrir des oiseaux qui eux vont créer une autre forme de biodiversité dans le jardin, on rétablit un équilibre qui est sûrement beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Donc le mieux c'est de réfléchir au cycle de vie et aux chaînes alimentaires qu'on a souvent supprimées par l'utilisation de ces molécules parce qu'elles sont confortables, parce que ça va vite, parce qu'en un ou deux jours on a ravagé le ravageur, mais on a aussi ravagé d'autres espèces parce que comme d'habitude avec les pesticides le gros problème c'est la spécificité et beaucoup de pesticides, quasiment tous, n'ont pas une spécificité vis-à-vis d'une seule espèce. On commence à avoir maintenant des organismes qui sont développés, l'INRAE travaille là-dessus, pour lutter contre un type d'espèce, mais c'est des agents biologiques qui sont utilisés. C'est par exemple des nématodes pour lutter contre certaines chenilles. Et ce n'est pas des nématodes qui vont persister, parce que dès que la chenille aura disparu, les nématodes disparaîtront aussi. Mais par exemple, pour lutter contre certains pucerons, réintroduire des larves de coccinelles, ça fonctionne bien. Mais il faut que les coccinelles soient là. Si on a mis un pesticide, les coccinelles ne sont pas là, pas plus que le puceron. Tout ça concourt à détruire la biodiversité et à, évidemment, rompre la chaîne alimentaire.